Bonsoir. Dans les années 70, une marque de lessive avait eu l'idée géniale de disposer un petit jouet dans ses paquets de lessive. Les enfants riches et pauvres en étaient dingues. Ceux que j'ai rencontrés ont gardé un souvenir ému, non pas de l'objet, mais de l'excitation qu'ils ont éprouvée à le chercher. Le cadeau Bonux s'était enfoui comme un trésor. Soit il apparaissait tout seul avec le temps, au fur et à mesure que le niveau de la lessive baissait, soit il fallait brasser la poudre, sans éventrer le paquet bien sûr. Et puis il y avait toujours un enfant qui, ne voyant pas apparaître le cadeau, s'affolait. « Il n'y en a pas un, ils ont oublié de le mettre !» Nous verrons avec Patrice Van Hersel quel est ce cadeau mystère qu'il cherche dans nos cerveaux. D'ailleurs, est-il dans le cerveau? On ne sait pas. En tout cas, il est à l'intérieur.
France Inter. État d'esprit. Noël Bréham.
Bonsoir Patrice Van Hersel.
Bonsoir Noël.
Merci d'être venu jusqu'à nous parler de cette recherche que vous avez faite à la recherche de la vie intérieure. Ce livre est édité chez Albin Michel. On vous connaît bien comme journaliste Libération actuelle pour les plus de 20 ans. Nouvelle clé, vous êtes donc écrivain, chercheur. Votre cerveau n'a pas fini de nous étonner, c'était en 2012 chez Albin Michel déjà. Et puis voilà ce petit dernier que je viens de citer. Vous avez posé la question « Qu'est-ce que la vie intérieure à différentes personnalités du monde, des sciences, de la philosophie, des arts ?» Ils ont bien voulu ? Il y a des gens qui ne sont pas dans votre livre et qui ont refusé ?
Ah non, personne. C'est vrai, j'y avais pas pensé, mais personne n'a refusé. J'étais étonné parce que la question avait émergé assez spontanément quand j'étais encore au journal Clé, qui existait, qui n'existe plus. Et on m'avait envoyé écouter une conférence d'André Comte-Sponville. Et c'est comme ça que commence le livre, mais c'est vraiment comme ça que l'histoire a commencé. C'est-à-dire que Comte-Sponville fait une conférence, puis à la fin, il y a quelqu'un dans la salle qui lève le doigt, et puis qui dit « Je comprends pas, vous avez parlé de votre spiritualité pendant la conférence. » Alors, il dit « Oui, mais je croyais que vous étiez athée. » Et Comte-Sponville dit « Oui, en effet, je ne crois pas en un Dieu transcendant, mais j'ai une vie intérieure. » Donc j'ai une spiritualité.
Et c'est là.
Oui, et c'est là que la question a fait tilt dans ma tête, en me disant oui, c'est vrai, tout le monde, parce que vie intérieure, si l'esprit, donc spiritus en latin, donc spiritualité, si la spiritualité c'est la vie intérieure, alors oui, effectivement, tout le monde a une spiritualité, mais la question ensuite a rebondi, mais alors la vie intérieure c'est quoi ? D'ailleurs, je voulais appeler le livre comme ça, et c'est l'éditeur qui a pas voulu, trouver que ça faisait grossier, mais moi, c'était ça mon titre, c'était « La vie intérieure, c'est quoi ?»
La vie intérieure, c'est quoi ? Donc, question déclenchée par André Comte-Sponville. Effectivement, André Comte-Sponville ne croit pas en Dieu. Alors, une journaliste a eu l'idée de lui demander pourquoi, parce que quand il était jeune, il croyait en Dieu, et puis, à 18 ans, eh bien, il a cessé de croire. Alors, elle lui a demandé ce qui s'était passé.
Bah, il s'est passé, au fond... Deux choses, pour simplifier, mai 68. À l'époque, la politique me passionnait tellement que tout le reste me paraissait inintéressant. Ouais. Si bien que Dieu a d'abord cessé de m'intéresser. Et puis, de désintérêt en désintérêt, j'ai fini par cesser d'y croire. C'est ce que j'appelle la mauvaise raison, parce que comme vous le voyez, elle doit davantage à l'époque qu'au raisonnement. L'autre raison, la bonne raison. Je découvrais la philosophie, alors avec un professeur, donc Pierre Hervé, lui-même athée, mais qui ne faisait aucun prosélytisme en faveur de l'athéisme, mais simplement commençant à philosopher un peu sérieusement, il m'est apparu que les arguments allant dans le sens de l'inexistence de Dieu me paraissaient plus forts que les arguments allant dans le sens de son existence. Parce que bien sûr, il n'y a pas de preuve, ni que Dieu existe, ni qu'il n'existe pas, mais il y a des arguments. Et au fond, la philosophie, ça sert justement à argumenter sur les questions où aucune preuve ne décide.
Patrice Van Hersel, il a évoqué André Comte-Sponville, la preuve et l'argument. Comment avez-vous navigué dans ce livre avec cette question sur la vie intérieure et les personnalités que vous avez interviewées, soit des artistes, soit des scientifiques, soit des philosophes, soit des religieux, avec cette histoire de preuve et d'argument ?
En l'occurrence, pour moi, il n'y avait pas autre chose qu'une curiosité et un désir de journaliste d'entendre. Et j'étais très content que tous ceux à qui j'ai posé la question, connus ou pas connus, alors il y en a beaucoup des pas connus qui ne sont pas à l'affiche en quelque sorte, mais tout le monde m'a répondu quelque chose et ça m'intéressait, ça partait dans beaucoup de directions. Ce qui, moi, m'étonne, mais que je peux comprendre, mais qui m'étonne dans le point de vue de Comte Sponville, c'est que, et d'ailleurs ça figure dans son traité d'athéologie, c'est le traité d'athéologie, c'est Michel Onfray, mais Michel Onfray commence son traité d'athéologie par une série d'extases.
Et il a fait l'esprit de l'athéisme, introduction à une spiritualité sans...
C'est ça. Mais que ce soit Onfray ou Comte Sponville, tous les deux ont la malice, je dirais, de dire qu'ils ont connu des extases. D'ailleurs, Comte Sponville, lui, dit plutôt, peut-être que c'est une enstase. Ce n'est pas extérieur, c'est à l'intérieur. C'est enfin, tous les deux disent qu'ils ont connu des expériences où ils se sont en quelque sorte fondus dans l'univers, où il n'y avait plus de différence entre moi et le tout, que c'était très, très agréable. Ils ont connu ce que les mystiques appellent l'amour et la connaissance absolue. Mais ensuite, ils sont redescendus sur Terre. Ils étaient de nouveau un individu limité, n'est-ce pas, pour le meilleur et pour le pire. Et ça n'a conduit à rien. Et moi, ça m'étonne beaucoup, parce que moi, comme beaucoup de gens, j'ai été élevé dans une religion, le catholicisme, puis donc enfant, j'ai cru, puis ensuite, à l'adolescence, je n'ai plus cru, bien entendu. Et si quelque chose a ressuscité en moi, ça n'est pas que je crois en Dieu, c'est que j'ai fait des expériences qui me font toucher quelque chose de divin, si vous voulez. Et voilà, et donc je ne crois pas en Dieu, je fais quelquefois l'expérience de choses divines. Et que l'on tienne toute une argumentation pour dire « oui, moi aussi, mais ça n'implique rien », pour moi c'est très bizarre. Mais voilà, ça n'est pas vraiment l'objet que je poursuivais en allant demander à mes congénères qu'est-ce que c'est pour eux que la vie intérieure. Bien entendu, ça pouvait conduire à ça, et ouais, dans certains cas ouais. Ça a conduit à ça, mais pas toujours, pas toujours.
Nous allons vous suivre tout au long de cette heure, Patrice Von Hersel, dans cette recherche, à la recherche de la vie intérieure, question que vous avez posée aux scientifiques, aux médecins, aux artistes, aux philosophes que vous avez rencontrés.
Estimé content d'encore dégager quelques excédents. Eux sillonnent le continent de long en large, recherchent une place dans le sens de la marche. L'essence du pays échappe, l'histoire la rattrape, l'exode les happe, s'étale sur plusieurs années. Au milieu avale la Méditerranée. Combien de temps d'années? Frappant nos demandes sur l'algorithme démon en rythme pour demain, à voir avec quelle cadence ces rapports souffrent leur nonchalance. Va croire au boniment de devins qui disent qu'un divin calcule nos régiments. Ils respirent comme ils montent. Combien de temps
François and the Atlas Mountain, grand dérèglement. Et il nous parle justement dans cette chanson du bouleversement du monde qui amènera les plus faibles à s'adapter, même de façon difficile. À la recherche de la vie intérieure, c'est le titre de votre livre, Patrice Van Hersel, qui est édité chez Albin Michel. Et au début du livre, vous dites que finalement, il y a plein de gens qui se sont jamais posés à eux-mêmes cette question de leur vie intérieure, parce que ça les inquiète.
Alors, c'est pas tout à fait ça. Il y a deux personnes qui s'expriment à ce sujet. D'abord, il y a Christophe André, oui, qui est le premier, le psychiatre que j'interviewe en premier. Et je vous dirai peut-être après pourquoi c'est par lui que j'ai voulu commencer. Et qui, lui, me dit, oui, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas du tout envie qu'on les interpelle sur leur vie intérieure ou qu'on les pousse à s'intéresser à leur vie intérieure. Ça leur fait peur. Peur pour plein de raisons. Ça leur fait peur parce que il y a à l'intérieur d'eux-mêmes des conflits, des nœuds.
Vous parlez de désordre émotionnel, de souvenirs douloureux, de problèmes non réglés.
C'est ça, c'est Christophe qui parle de ça.
C'est du lourd quand même.
Et oui, c'est du lourd. Mais en même temps, un peu plus tard, un autre de mes interlocuteurs, qui est le Shir Ben Tounes, qui est un maître spirituel soufi, lui dit, non, ça n'existe pas. Bien sûr, beaucoup de gens et beaucoup d'entre nous sommes tellement actifs, tellement préoccupés par le monde extérieur en permanence et de plus en plus dans le monde où tout s'accélère, n'est-ce pas, qu'il peut s'écouler une journée entière sans que nous nous soyons parlé à nous-mêmes. Mais dans la vie d'un individu, ça n'est pas possible. Tout simplement, dit-il, on est forcément, à un moment ou à un autre, confronté à soi-même, soit parce qu'il nous arrive des ennuis, parce qu'on a du chagrin, parce qu'on a été quitté, parce que on a perdu quelqu'un, ou simplement parce qu'enfin il nous arrive une tuile, et qu'à ce moment-là, de façon peut-être déprimée, désespérée, on est forcé de se plonger en soi-même, mais ça peut être aussi de la joie, ça peut être que je suis tombé amoureux. Alors là, certains diraient, oui, mais là, alors là, on est complètement aveugle. Moi, je suis plutôt de l'avis de Christiane Singer qui disait, si on tombe vraiment amoureux, on voit l'autre comme Dieu l'a rêvé.
Ça, c'est pas mal. Et pas comme il est.
Et pas comme il pourrait être.
C'est joli.
Mais donc, je pense pas qu'il existe de personne, même chez quelqu'un qui serait très handicapé psychiquement, qui n'est pas une vie intérieure. Je pense que tout le monde en a une. Elle peut être morcelée ou sereine, elle peut être riche ou pauvre, mais tout le monde en a une.
Alors, Patrice Van Hersel, à propos de ceux qui en ont une, mais qui n'ont pas forcément envie de la regarder, le philosophe Pascal disait « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, ne pas savoir demeurer au repos dans une chambre. » Et sur YouTube, le coup de fil philo explique cette phrase d'une façon toute personnelle.
C'est cool cette intro, non ?
C'est mieux quand ça va vite, plutôt que quand ça va doucement. Vous ne trouvez pas ?
C'est normal, quand je vais super vite avec plein d'animations partout, j'occupe l'attention de ton cerveau. Alors que quand ça va lentement, bah l'attention de ton cerveau est libre. Et du coup tu t'es chié, et on déteste se faire chier. Bah ouais, dès qu'on est sans rien faire, on se retrouve face à soi-même et à des pensées négatives liées au fait que je sois mortel. Comme par exemple, quel est le sens de ma vie, ou qu'est-ce que je dois accomplir avant ma mort, ou encore, y a-t-il une vie après la mort ?
Quel est mon but dans la vie ? Est-ce que j'ai un destin ? Pourquoi je suis sur Terre ?
Y'a Nabila à la télé ? J'arrive ! Du coup, on va vouloir occuper notre attention à quelque chose pour éviter d'être dans cet état de pensée. Et c'est ça qu'on appelle le divertissement
pascalien.
Voilà, c'est pas le même ton que Comte Sponville, Patrice Van Hersel.
Non, c'est excellent.
Mais c'est pas mal, hein ?
Excellent. Ouais. Mais c'est exactement ça. Non, c'est exactement ça. Démarrant cette enquête, je me suis évidemment posé la question de la vie intérieure dans notre vie moderne ou post-moderne. Et Bernanos, que je cite aussi au début, dit « On n'a rien compris à la société moderne si on ne voit pas qu'elle est un vaste complot contre toute forme de vie intérieure. » Donc ça, c'est une sorte de rumeur, mais presque de poncif, pardon pour Bernanos, l'idée que dans la vie moderne, on est tellement pris par le spectacle, accélérer des choses, qu'on n'a plus le temps de s'interroger comme l'auraient fait nos ancêtres, qui vivaient non pas dans une chambre, parce que Pascal dit tout le malheur des hommes,
tranquille dans
c'est
une
de ne
chambre.
Pas rester tout seul dans une chambre. Alors effectivement, rester dans une chambre, on a du mal, ou alors on allume la télé, le jeu vidéo, on est ou sa tablette, etc. nos ancêtres, je pense qu'ils avaient peut-être une vie intérieure plus tranquille et peut-être plus riche parce qu'ils étaient en rapport avec la nature. Et de ce point de vue-là, je trouve que notre société réagit pas si mal puisque elle nous invite en ce moment de façon continue, soit à méditer. Je pense que la vogue de la méditation n'est pas une mode superficielle. Je crois que ça répond à un profond besoin.
C'est pas un hasard.
Je pense pas que ça soit un hasard. Méditer de toutes les manières possibles et imaginables. Et d'autre part, notre besoin de nature qui s'exprime là aussi de mille façons. Mais on peut ne pas être dans une chambre, mais être face à la mer, en montagne, dans une forêt ou simplement dans une prairie ou simplement dans son jardin, tranquillement. Et curieusement, cet extérieur va réveiller notre intérieur, ce qui sont évidemment en liaison permanente.
Profiter de la nature, c'est vrai qu'on n'en a plus beaucoup. Moi, quand la mer me manque, je regarde le ciel. Et finalement, un morceau de ciel, on trouve ça à peu près partout.
Et alors, est-ce que ça réveille votre vie intérieure?
J'espère. Mais vous parliez de Christophe André et vous me disiez tout à l'heure que vous alliez me dire pourquoi vous aviez commencé par lui.
Oui, parce que Christophe André avait écrit un livre sur les états d'âme. Il appelait ça état d'âme. Et pour lui, état d'âme, tout le livre parlait de ça, c'était la petite musique que nous avons en nous en permanence. Cette musique que, en principe, la méditation est censée un peu calmer, qui est faite de mélanges, de pensées, de souvenirs, de rappels. Ah tiens, oui, je dois faire ça. Cet enfant a l'air sympa. Oh, comme ce type a l'air idiot.
Ah oui, cette espèce c'est de... pas vraiment de la musique, c'est ta-ta-ta-ta-ta. Nishnat Han dit ça, le
ta-ta-ta-ta-ta.
Oui.
Bon, voilà, moi j'appelle ça une petite musique, mais c'est une musique répétitive, un peu techno. Et Christophe disait, ça nous remplit en permanence. On a tout le temps une espèce de brouhaha.
Un parasite.
Une espèce de parasite, de bruit. Et les neurologues ou psychoneurologues négligent ça aussi au profit, disait Christophe André, des grandes émotions. On va étudier la colère, la tristesse, la dépression, etc. Alors que ça nous occupe mais 90% du temps.
Ouais.
Et il disait, c'est quand même bizarre, voilà, quelque chose qui nous occupe 90% du temps et qu'on n'étudie pas. Parce que ça fait pas beaucoup de bruit, parce que c'est là, dès que ça se met à faire du bruit, c'est autre chose. Quand j'ai demandé à Christophe, je lui ai dit, mais justement, les maîtres spirituels, qu'il admire par ailleurs, ont tendance à disqualifier ce parasite. Et là, il m'a répondu qu'il n'était pas si sûr de devoir disqualifier cette musique. Alors il m'a dit, il y a une écologie de la vie intérieure où se mélangent en effet des choses absolument sans importance et des choses prioritaires, des choses essentielles. On peut à la fois, tout d'un coup, se rappeler une conversation idiote qu'on vient d'avoir au repas, et d'ailleurs tout d'un coup se rappeler même le goût du ragoût, et en même temps, tout de suite après, se dire « Ah ben oui, tiens, j'ai lu tel passage d'un livre magnifique. » Et ce mélange fait que... Pourquoi il parle d'écologie ? Parce qu'il dit exactement comme dans la nature extérieure, ou dans la vie extérieure, on ne peut pas dire « Ah oui, non, mais ça, c'est un tout petit insecte qui vaut rien. » Non, nous savons aujourd'hui que dans la chaîne de la vie, l'éléphant ou le lion sont des animaux peut-être pas plus importants que le scolopendre ou que l'acarien minuscule.
Ne dites pas acarien, je vais me gratter. Mais en fait, Patrice Von Hersel, ce que vous évoquez à propos de Christophe André, le psychiatre qu'on connaît, c'est que comme le ver de terre est aussi important pour la nature que l'éléphant, nos petites pensées parasites, est-ce que j'ai rempli ma feuille d'impôt, est-ce que j'ai machin, il faudrait que je pense à faire tourner une machine, tout ça, c'est important finalement. C'est nous en tout cas.
C'est nous. C'était la réponse de Christophe André, qui par ailleurs... accorde de l'importance à la grande philosophie.
Mais il n'y a pas que ça.
Mais il n'y a pas que ça. Il dit, attention, doucement, la vie intérieure, elle est comme la vie extérieure, elle a une écologie et tout compte.
Y compris ce qu'on pensait être à peu près rien. L'à peu près rien existe.
Call out is. Hedges. I promise I swear, I swear. Yo, Percocet, Miley Percocet, Percocet, Miley Percocet, rep the set, gotta rep the set, chase a chick, never chase a bitch, mask on,
two cups. Toast up with the gang. From full steps to a whole nother domain. Out the bottle, yeah. I'm a living proof. Super. Ain't compromising. Half a million on the coup. Drug houses. Looking like Peru. Graduated. I was overdue. I'm a pink money. I can barely move. Ask about me. I'm gon' bust a move. Red James. 33 chains. Ocean now. Cruising Biscayne. Hit fire. Top off. That's a liability. Hit the gas, yeah. Boosting my adrenaline, be it fine. Percocet, yeah. Molly Percocet, be it fine. Percocet, yeah. Molly Percocet, be it fine. Rep the set, yeah. Gotta rep the set, gang, gang. Chase a chick, yeah. Never chase a bitch, be it fine. Mask on, yeah. Fuck it, mask off, be it fine. Mask on, yeah. Fuck it, mask off, be it fine. Percocet, yeah. Molly Percocet, be it fine. Chase a chick, yeah. Never chase a bitch, chase no bitches. Photo Maven, I drive anything, yeah. Buy my reins, yeah. Make them go insane, yeah. My guillotine, drink from Melazine, drink from taking beams, yeah. Go to those extremes, let's go, let's go. Parliament, Parliament, Calamari wins, yeah. Parlay in Vegas, we was in attendance, let's go, let's go. Before the business, yeah. Theodore Lindsay, Theodore, more prescriptions, yeah. Focus on the mission, put my intermission. Hold on, never take a break. We can't pull up. Switch states, switch down far and place. Speech, ain't no way, ain't no fucking way. No, we come to play, we didn't come to play. No, rock the bank, we gon' rock the game. Again, they gain, we gain. Gang, but they are not the same. We been Percocet, yeah. Molly Percocet, be it fine. Percocet, yeah. Molly Percocet, be it fine. Rep the set, yeah. Gotta rep the set. Gang, gang. Chase a chick, chase. Never chase a bitch, chase be it fine. Mask on, yeah. Fuck it, mask off, be it fine. Mask on, yeah. Fuck it, mask off, be it fine. Percocet, yeah. Molly Percocet, be it fine. Chase a chick, chase. Never chase a bitch, chase be it fine. Bitch. Mask on, fuck it, mask off. Mask on, fuck your mask on. Mask on, fuck your mask on. Gas on, never know it, huh?
Mask off, c'est le tout nouvel album du rappeur américain Future.
Noël Bréham, État d'esprit, sur France Inter.
Patrice Van Hersel, nous parlons ce soir de la vie intérieure, puisque c'est le titre de votre livre enquête à la recherche de la vie intérieure. C'est édité chez Albin Michel. Vous avez rencontré Stanislas Dehaene, normalien, neuropsychologue. Il dirige l'unité de neuroimagerie cognitive de Neurospin, qui est l'un des laboratoires d'avant-garde de l'INSERM à Saclay. Alors nous l'écoutons avant que vous nous parliez de votre rencontre, parce qu'elle n'est pas facile son activité. Alors nous l'écoutons en parler lui-même.
L'imagerie cérébrale est l'une des méthodes de la psychologie contemporaine. Tout aspect de la psychologie humaine peut être étudié sous l'angle de l'organisation cérébrale. Beaucoup des questions que nous sommes amenés à poser sont des questions qui appartenaient autrefois à la philosophie et que nous ramenons dans le domaine de la science. Je considère que ça fait partie de notre travail. Prendre une question aussi difficile, par exemple, que celle de la conscience, eh bien, nous créons des paradigmes expérimentaux pour ramener cette question au laboratoire et la rendre étudiable avec des outils très simples de la psychologie et de l'imagerie cérébrale. Nous essayons d'apporter des réponses à ces très grandes questions qui ont traversé l'ensemble de la philosophie, l'ensemble de la quête de l'humanité, de se comprendre mieux soi-même.
Voilà, c'était Stanislas Dehaene. Qu'est-ce qu'il a répondu, Patrice Van Hersel, à votre question sur la vie intérieure, Stanislas Dehaene ? Vous l'avez dit, qu'est-ce que c'est pour vous, en fait ?
Non, il a commencé par me dire qu'il y a quelques années, il n'aurait pas pu me répondre, que c'était assez récent. Le travail qu'il fait sur les réseaux neuronaux maintenant qui sont espionnés, scannés en temps réel grâce au fantastique progrès de l'imagerie cérébrale, ce progrès fait qu'aujourd'hui, il peut me répondre. Il me dit « Pour moi, la vie intérieure démarre quand il y a prise de conscience. » Il m'a joué un tour en me disant « Tenez, est-ce que vous avez remarqué que derrière vous, il y avait un ventilateur ?» Parce qu'il faisait très chaud, donc il y avait un ventilateur dans son bureau. Et je lui dis « Ah bah non, tiens !» Il me dit « Bah pourtant, vos oreilles l'entendaient. Vos oreilles entendaient ce ventilateur dans votre dos. Mais comme vous étiez pris par la conversation entre nous, vous n'y prêtiez pas attention et vous n'en aviez pas conscience. Ah. À la seconde où je vous ai dit, est-ce que vous réalisez qu'il y a un ventilateur derrière vous ? Si l'on avait scanné votre cerveau, on aurait vu quelque chose de tout à fait remarquable, à savoir que l'ensemble de votre cortex se serait embrasé. Et il me dit, ça c'est une découverte récente, parce qu'ils ont mesuré ça de façon très fine, la microseconde où tout d'un coup on prend conscience de quelque chose, et bien cette microseconde, il y a un avant et un après, et après ce n'est pas juste une petite zone qui s'allume, alors qu'on pourrait croire,
c'est vous.
Tout s'allume d'un coup. Et ça c'est important, et ça permet d'étudier alors de manière pratique les personnes qui sont dans le coma, par exemple, et dont on ne sait pas si elles sont conscientes ou pas.
D'accord.
Ça a des retombées extrêmement pratiques. Mais lui, ensuite, ce qu'il m'a répondu à titre plus personnel, même si ça repose également sur des données, on pourrait dire scientifiques, mais ça sort un petit peu de la machinerie dont il est l'un des patrons en France, c'est qu'il m'a parlé des mots.
M-O-T-S.
Il m'a parlé des mots en disant ce qui est important pour qu'une vie intérieure naisse chez un enfant, c'est qu'il ait un vocabulaire riche.
Que les choses existent si on les nomme.
Oui.
Si on les raconte.
C'est ça, c'est ça. Et que de ce point de vue-là, il trouve que c'est une des pires injustices, et il milite d'ailleurs, pour que soit prise en compte la richesse sémantique. En disant, un enfant finalement, peu importe que vous lui appreniez telle discipline ou telle autre, pourvu que ce que vous lui enseignez soit riche d'un point de vue sémantique. Ça peut être de cultiver la terre, mais qu'à ce moment-là, il sache dire avec une grande richesse de mots...
Ses idées, dire ses émotions, dire son activité.
Ses perceptions. Exactement. Ses perceptions, ses sensations, ses sentiments, et puis ses pensées. Peut-être dans cet ordre-là.
Nommer, c'est exister.
Oui, oui.
Alors, à propos de Stanislas Dehaene et des enfants, Patrice Van Hersel, on s'inquiète, nous, pour nos enfants qui sont scotchés devant ces écrans, et lui dit que des enfants qui sont, je le simplifie à outrance, alors je veux pas, ne réagissez pas, hein, la simplification entraîne toujours des erreurs, mais gagnons quand même un petit peu de temps, que les enfants qui sont scotchés aux jeux vidéo acquièrent quand même une adaptation à l'inédit, une concentration, une prise de décision rapide, enfin des choses qui sont finalement assez précieuses.
Alors, deux choses. D'une part, pas scotcher, parce que scotcher, ça c'est le problème. C'est-à-dire l'addiction n'est pas bonne, de toute façon, comme toute addiction.
Bon, j'exagérais comme d'habitude.
Et donc, le scotcher, non. Ouais, mais par contre, il dit, ce n'est pas qu'ils ont quand même une intériorité. Moi, je venais vers lui en disant, bon, alors, vous avez étudié, je savais qu'il avait étudié les enfants et qu'il était très préoccupé par ça. Je lui dis, aujourd'hui, des gamins qui ne lisent plus.
Ah oui, parce qu'il vous parlait des mots.
Qui sont devant leurs jeux vidéo en permanence. Est-ce que ça n'annihile pas, au départ, leur intériorité? Et il me dit, alors, s'ils sont scotchés devant, ça, c'est pas bon. Mais par contre, ils peuvent jouer beaucoup et c'est plutôt très bon. Et c'est plutôt très bon parce qu'on a mesuré, alors il se réfère à pas mal d'études américaines, mais plus que françaises, mais aussi françaises, où on a remarqué qu'un enfant qui joue à des jeux vidéo développe son sens de l'attention, sa rapidité à réagir, un ensemble de qualités qui sont excellentes pour la vie intérieure. Il m'a parlé de Socrate en disant « Savez-vous que Socrate disait à son élève Platon qu'il avait grande inquiétude à voir se développer l'écriture. Parce que Socrate, lui...
C'était l'oralité.
C'était l'oralité. Et son élève, lui, prenait note, en quelque sorte, n'est-ce pas? Et écrivait des livres. Et Socrate s'inquiète, il dit « J'ai peur qu'avec l'écriture, l'humanité perde sa mémoire. » Ce souci-là, me dit Stanislas Dehaene, il a été redoublé à la Renaissance quand on a inventé l'imprimerie. Pourrait dire que peut-être Madame Gutenberg a dû se dire « Ouh là 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 là, alors maintenant, alors là les livres, c'était déjà un peu grave depuis Platon, maintenant ça se répand, alors là la
ça
mémoire
va être
entièrement externalisée dans des livres et on n'aura plus. » Or c'est l'inverse qui s'est passé.
C'est pourtant logique. Si on a un carnet de téléphone, on ne se rappelle pas des numéros.
C'est vrai. Alors il y a quelqu'un qui plus tard, un autre interlocuteur, qui va un petit peu contredire Stanislas, mais j'ai eu là affaire à quelqu'un qui est quand même un spécialiste de la question et qui me dit « Ne nous inquiétons pas, ne faisons pas l'erreur qu'a faite Socrate en pensant que la lecture, l'écriture et les livres allaient tuer notre mémoire.
Parce que c'est vrai qu'on note les numéros de téléphone plutôt que de les apprendre par cœur, mais malgré tout, la lecture amplifie notre mémoire, la fait travailler, raconte des histoires dont on se souvient, etc.
Alors, il est certain qu'on a plus de données sur la lecture et l'écriture. La lecture éveille, le fait de lire un livre, ça réveille des univers entiers à l'intérieur de nous. C'est tout à fait extraordinaire. Comment d'ailleurs le cerveau s'est adapté à, et ça, Dehaene en parle aussi, comment le cerveau a détourné des fonctions qui étaient prévues pour autre chose.
Le cerveau n'a pas été construit pour lire à la base.
Non. Il n'était pas prévu.
Il n'était pas prévu pour ça.
Il n'était pas prévu pour la lecture.
Mais il a détourné des fonctions.
Oui. Il a détourné des fonctions. Par exemple, le fait de reconnaître un visage. Ça, c'est très, très, très ancien. Déjà, nos ancêtres animaux, déjà, se reconnaissent les uns les autres. Et donc, là, il y a des parties de notre cerveau qui savent reconnaître un visage. Puis qui, ensuite, quand les humains ont commencé à parler, il a fallu nommer ce que l'on reconnaissait. Ça, ce sont des fonctions très anciennes. Et l'évolution a fait qu'à partir du moment où l'écriture a émergé, ces deux fonctions-là ont été utilisées à cette fin. Et ça n'a pas du tout détruit notre vie intérieure, ça l'a plutôt enrichi. Le pari que fait Dehaene, ou Dehaene, ça dépend, on le prononce comme ceci ou comme cela, suivant les cas.
Stanislas, appelons-le Stanislas.
Appelons-le Stanislas, nous dit, ne nous faisons pas de soucis, mais par contre, les enfants qui sont 24 heures sur 24 devant leur jeu vidéo, ça c'est pas bon. Il faut limiter, canaliser leur emploi du temps.
Tout est dans la dose, disait Paracels. Vous, c'est Patrice Von Hersel.
Sur les bords de Seine, le septième jour de la semaine, avec toi, j'aime bien traîner, traîner. Paris plage, Paris paresseuse, les soirs d'été sont chauds, Paris Eldorado sur l'eau.
Thank you.
C'était Étienne Dao et Astrud Gilles Berthaud. C'est extrait d'un album qui est sorti en 1996.
État d'esprit sur France Inter.
Alors, bien sûr, Patrice Van Hersel, dans cette recherche de la vie intérieure, votre livre édité chez Albin Michel, vous avez interviewé des gens inattendus et puis peut-être sur la vie intérieure, on allait, j'allais dire des pros de la vie intérieure, dont notre écrivain chéri Christian Bobin. Alors, avant que vous nous racontiez votre rencontre, écoutons-le, notre Christian Bobin, chez Alain Weinstein. C'était sur France Culture en 2014.
La merveille et le terrible ne sont pas séparables. C'est comme ça. Et si vous ne voulez pas l'un, parce que personne ne veut le terrible, évidemment. Je ne suis pas doloriste et je ne suis pas masochiste, encore moins. Mais personne ne veut le terrible pour soi. Et... Mais vous, si vous arc-boutez et que vous décidez que jamais il y aura quelque chose de dur dans votre vie, alors il y aura tout simplement pas la vie dans votre vie. Parce que son autre versant n'est pas séparable du premier. Si vous voulez une chose, eh bien, il faut que vous accueillez l'autre.
Si vous voulez une chose, il faut que vous accueillez l'autre, Patrice Van Hersel. Donc Christian Bobin, que vous avez rencontré. Qu'est-ce qui vous a appris, Christian Bobin, sur cette enquête que vous menez sur la vie intérieure?
Non, Christian, lui, il ne voulait pas du tout qu'on prépare, surtout pas.
Ah bon?
Ah non, ce n'était pas la première fois que je le rencontrais. Et il m'a offert, on pourrait dire, une impro, une improvisation, comme un musicien. Il est parti, il savait le thème, la question c'était... Donc la vie intérieure, c'est quoi pour vous? Et il est parti pendant bien 25 minutes, les yeux baissés. Et il s'est mis à, je crois comme il écrit, il s'est mis à me parler de ce que ça évoquait en lui. Et ce que ça évoquait, c'était un peu comme ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire un mélange inextricable de bonheur et de malheur. Mais c'était plutôt du bonheur, mais c'était le souvenir de son père, du visage de son père, en train de regarder par la fenêtre les fleurs de l'acacia emportées par le vent. Et son père a dû lui dire un ou deux mots sur ces fleurs d'acacia dont il ne se souvenait pas, mais ce visage, voilà, il disait, ben voilà, la vie intérieure pour moi, c'est le souvenir du visage de mon père. Ou bien, c'est peut-être cette petite fleur, une pâquerette, qu'il avait failli écraser en allant chercher du bois, parce que, en attendant que j'arrive dans sa campagne du côté du Creusot, il avait préparé un feu dans la cheminée, et il était allé chercher du bois dans la remise, et il avait failli écraser une petite fleur jaune. Une pâquerette jaune et blanche. Et alors, il est parti pendant plusieurs minutes à
et
me
vous,
parler
vous pensez
à quoi ? Du cri de cette petite fleur blanche qui lui disait « Attention, j'existe ». Et pour lui, c'est très, très important, ça. C'est très important. Et à partir de là, alors on est parti dans une conversation où il était question, entre autres, de ce qu'il vient d'évoquer là, à l'antenne, dans votre séquence, c'est-à-dire du mystère de la souffrance, qui est un mystère que nous autres, qui sommes en quelque sorte nés en mai 68, avons absolument en horreur, parce qu'il n'est pas question de souffrir.
Il est question... L'amour, pas la guerre, d'ailleurs. C'est, hein,
alors, l'amour, pas la guerre, mais jouir sans entrave. C'est jouir. Être heureux, jouir... Et pas de souffrance. Moi, il se trouve que ma vie de journaliste a fait que j'ai travaillé pendant un bon moment auprès de personnes mourantes.
Patrice Van Hersel, vous avez fait un livre d'ailleurs là-dessus.
Oui,
j'ai fait. Sur les gens qui sont morts et revenus, on va dire.
Oui, ça c'était ce qui m'avait attiré là-dedans. Mais en réalité, oui, ça s'appelait La Source Noire. Oui. Mais du même coup, j'ai découvert les soins palliatifs, en fait. Et qui sont cet art de nous accompagner les uns les autres dans les derniers instants. Et j'ai fait une petite formation aux États-Unis avec quelqu'un qui s'appelait Elisabeth Kubler-Ross. Et alors, j'essaie de le résumer en deux phrases. Vous êtes en retraite pendant une semaine dans un endroit tranquille, reculé. avec une centaine de personnes, et sur cette centaine de personnes, à peu près la moitié a le cancer, le sida, ou a eu un enfant massacré. Et alors, vous découvrez des choses très étonnantes. Notamment que si on vous aide à traverser la vallée des larmes, pour ça il faut de bons passeurs. Elisabeth Kübler-Ross était une très bonne passeuse. Si vous réussissez à traverser la vallée de vos larmes, qui peut être terrible, j'ai découvert des vallées épouvantablement profondes et larges, dont je ne me serais pas douté, vous découvrez que ceux qui l'ont traversée en sortent enrichis. Alors, tout de suite, j'entends les cris de protestation, notamment de tout un tas de copains ou de copines qui vont me dire « mais ça, c'est du dolorisme, c'est du masochisme, etc. » Non, c'est pas... Il se trouve que nous souffrons ou pas. Enfin, il faut essayer de souffrir le moins possible, évidemment, tout faire pour ne pas souffrir. Mais il se trouve que, à des degrés divers, nous sommes amenés à souffrir. Et si nous réussissons à traverser ça, et si nous réussissons à nous aider les uns les autres à traverser ça, ça devient très mystérieusement un trésor.
Peut-on le traverser seul, Patrice Van Hersel ?
J'en sais rien. Moi, ce que j'ai vu, ma seule expérience, c'était non. Là, j'aurais répondu non. Non, il faut s'aider les uns les autres. Mais peut-être que certains y arrivent.
Donc, c'est effectivement ce que dit Christian Bobin. C'est aussi ce que dit Catherine Dolto, que vous avez rencontrée, à qui vous avez également posé la question de la vie intérieure, la pédiatre Catherine Dolto, qui pratique l'aptonomie. Elle vous dit, dans la vie, il y a des gens qui se battent contre quelque chose contre lequel ils ne peuvent rien. Il y a des gens qui n'acceptent pas et qui, du coup, perdent beaucoup d'énergie à ça et qui passent à côté d'une vie magnifique qu'ils pourraient avoir. Ils passent à côté de leur potentialité. D'ailleurs, vous lui avez donné la phrase de Marc Aurèle, qu'ont repris les Alcooliques Anonymes. « Faites que je puisse avoir la sagesse de supporter ce qui est difficile. Faites que je puisse avoir l'énergie de changer ce que je peux changer et que j'arrive à discerner entre les deux. »
Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça. Et elle disait, oui, et beaucoup de gens n'arrivent pas à discerner. C'est ça le problème, c'est de discerner ce qu'il nous faut accepter.
Voilà.
Oui, qu'est-ce qu'on peut changer et qu'est-ce qu'on ne peut pas changer.
Il y a des choses qu'on n'aura jamais, dit-elle. Et il faut vivre avec ce manque. Il faut vivre avec ce qui nous pèse et il faut vivre aussi avec ce qui nous manque. Voilà.
C'est ça. Mais là, curieusement, ce que vous dites, là, ça rejoint aussi bien ce que nous avons dit au début à propos de Christophe André. Il faut s'accepter tel qu'on est. Oui. Et certes, travailler à se centrer sur des choses belles, intéressantes, qui vont nous apporter du bonheur plutôt que du malheur, bien entendu. Mais il faut s'accepter tel qu'on est. Et là, la phrase de Marc Aurèle reprise par les Alcooliques Anonymes, elle nous invite donc à faire la différence entre s'accepter tel qu'on est, non pas se résigner. Donc,
elle est où la différence ? C'est ça qui est dur.
Oui, elle est différente pour chacun. Qu'est-ce que, en moi, je suis obligé d'accepter parce que c'est dans... en quelque sorte dans ma structure de base, et que ce n'est pas la peine de me cogner la tête contre les murs. Et qu'est-ce que je peux changer ? À un moment donné, j'ai discuté de ça avec un philosophe que j'aime bien, qui s'appelle Denis Marquet, et qui me dit le problème à ce moment-là, c'est que cette partie de nous, à l'intérieur de nous, qui dit « je veux changer », cette volonté, cette bonne volonté, elle est menée par ce qu'on appelle l'ego. Et l'ego, en réalité, il ne veut pas changer. Donc, il dit, c'est les bonnes résolutions, on dit « je vais changer », etc. Mais en réalité, on n'y arrive pas. D'où, ça c'est un point de vue qui n'est pas partagé par tout le monde, mais c'était Denis Marquet qui me disait ça, il me disait « d'où le fait que souvent on ne change que parce qu'on s'est pris
une tôle,
parce qu'on s'est cassé la figure, parce qu'on a traversé une grosse épreuve qui tout d'un coup nous a complètement déstabilisé. Alors là, l'ego, il est parti, il faut saisir l'occasion. » C'est pour ça que les Chinois disent qu'une crise, c'est une opportunité.
Oui. Celui qui est au milieu de la crise, il ne prend en général jamais bien cette phrase, Patrice Van Hersel. Mais c'est vrai que si on ne change pas tout seul, la vie s'occupe de vous faire changer. Parfois, ça peut être un petit peu violent. Allez, ce Diana Krall, nous l'offrons à notre Pierre Bouteiller. C'était bien son style.
Love is in your eyes. I look, your smile can't disguise. The look of love, it's saying so much more than just words could ever say. And what my heart has heard, well, it takes my breath away. I can't hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, you've got the look of love is on your face. A look that time can't erase. Be mine tonight. Let this be just the start of so many nights like this. Let's take a lover's vow and then seal it with a kiss. I can't hardly wait to hold you, feel my arms around you. How long I have waited, waited just to love you. Now that I have found you, don't ever go. Don't ever go. Don't ever go.
Noël Bréham, État d'esprit sur France Inter.
Patrice Van Hersel, il y a plein de choses dont nous n'avons pas parlé dans ce livre que vous venez d'éditer chez Albin Michel, À la recherche de la vie intérieure. Et dans la vie intérieure, il y a ce grand mystère, cette magie qu'est la création artistique. Si vous voulez bien, écoutons quelques mots de Gaston Bachelard dont vous parlez dans ce livre. C'était en 1961 pour la télévision. Il n'y avait qu'une télévision à l'époque, qu'une chaîne. Il répondait à Hubert Knapp et Jean-Claude Bringuier.
Je voudrais montrer que il y a au contraire des rêveries salutaires. Je ne parle pas de la rêverie qui vous prépare à dormir. Je ne prétends pas suivre le rêveur dans son espèce de lassitude. Au contraire, tous les livres que j'essayais de constituer avec des rêveries étaient constitués par des rêveries qui étaient en se magissant psychiquement. C'est pourquoi tous les documents que j'ai pris touchaient à une rêverie vraiment positive, vraiment utile, vraiment active, la rêverie des poètes.
Et voilà, nous terminons sur la rêverie des poètes. Patrice Van Hersel, vous avez également, avec ces philosophes et ces scientifiques, interviewé un artiste. Il s'agit d'Arthur H. Le mathématicien vous a également, Cédric Villani, parlé de musique. Est-ce que vous avez pu comprendre comment ça marchait, l'inspiration artistique, Patrice Van Hersel?
L'inspiration, c'est le grand mystère, c'est la voix de l'ange. C'est cette part de nous qui est peut-être immortelle. Le problème avec la création, c'est que, par définition, si on est en création, c'est un geste, un mouvement unique, puisque une fois qu'il a été créé, après, ça n'est qu'une répétition. Et si on part d'un point de vue scientifique, ce qui est unique, ce qui ne se répète pas, ne peut pas s'appréhender. La science, elle étudie ce qui se répète. Elle ne peut pas étudier l'unique. Oui. Il y a quelque chose d'unique dans une création qui échappe. Mais il y a Et je pense que j'y fais allusion quelque part dans le livre, dans les intermèdes. Il y a des gens qui ont essayé d'attraper ça de biais, si je puis dire, en piégeant en quelque sorte le problème, en se demandant quelles étaient les caractéristiques des créateurs. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un a des chances d'être créatif ou pas ? Et ce qui est remarquable, c'est que dans ces recherches, en particulier, il y a la recherche d'un psychologue américain qui s'appelle Mihail Csikszentmihalyi, je crois que c'est d'origine hongroise, et qui dit que plus on a d'ambivalence dans sa vie antérieure, c'est-à-dire que si on est opti-pessimiste, comme dirait Edgar Morin, qui dit qu'il est optimiste-pessimiste en même temps, ou si on est masculin-féminin, ou si on est chaud-froid, si on est...
C'est drôle, parce que dans la vie actuelle, on vous demande en général de vous prononcer d'une façon claire, nette et définitive. Et puis c'est très mal vu de changer, puis c'est très mal vu d'être deux choses à la fois.
Ça, ça serait pas bon pour la créativité. La création jaillit de l'ambivalence. Elle jaillit des télescopages et des métissages, je dirais.
C'est intéressant. Et vous citez également Alfred Bader, qui est un psychologue suisse. « Nous avons tous un jardin intérieur. La folie, c'est d'y rester enfermé. L'art, c'est d'en rapporter des fleurs. »
Oui, ça, c'est un psychiatre qui s'appelle Jean-Pierre Klein, qui m'a offert cette citation.
Oui, je vous cite, qui cite, c'est l'homme qui a vu l'ours, qui a vu l'homme. Voilà ce livre qui s'appelle « À la recherche de la vie intérieure ». Alors, il y a un chapitre consacré à Christophe André, un autre au Cheikh Bentounes, qui a dit des tellement belles choses. Et,
c'est un maître soufi qui dit qu'aujourd'hui, jamais, il a l'impression, lui, que jamais un tel besoin d'intériorité ne s'est fait sentir. Et comme je l'interrogeais évidemment sur les dérives extrémistes du champ religieux, disons ça par euphémisme comme ça, il me disait, mais en réalité, ça a l'air terrible de dire ça comme ça, mais c'est l'arbre qui cache la forêt. Lui, il a l'impression, lui parlant depuis l'intérieur de l'islam,
Khaled Bentounes,
oui, le Cheikh Khaled Bentounes, que jamais les religions n'ont été à ce point interrogées. Il faut réussir à prendre peut-être un peu de recul, voir la chose à l'échelle peut-être du siècle, sinon du millénaire. Mais que jamais les religions ont été à ce point, que le doute s'installe partout, que c'est et que c'est très bon, et que c'est un très bon signe d'interrogation intérieure, justement.
En tout cas, ça fait vraiment du bien de le lire. Rien que pour lui, il faut acheter votre livre. Christian Bobin, nous l'avons entendu. Stanislas Dehaene, nous l'avons entendu. Catherine Dolto, nous l'avons évoqué. Arthur Ashe, merveilleux, justement, à propos de la créativité, nous l'avons entendu. Annick de Souzenel, passionnante. Cédric Villani. Et tous ceux que vous mettez dans vos interchapitres, qui sont des réflexions que vous menez avec d'autres que vous avez interviewés, que vous citez par-ci, par-là.
Des amis, des voisins,
des parents.
Il y a des gens qui vont vous dire, mais attendez, mais ma vie intérieure, mais même si je parlais pendant 1000 ans, je ne pourrais pas vous en dire 1%, parce que ma vie intérieure, c'est tout, et c'est ineffable. Et là, il y a un paradoxe, si vous voulez. C'est-à-dire que sans les mots, on ne pourrait pas avoir de vie intérieure, mais le cœur du sujet échappe aux mots.
Ah, c'est bien dit. Vous faites un petit jeu de mots, hein, Patrice Van Hersel. On ne peut pas la dire, mais pour la voir, il faut avoir des mots.
Pour pouvoir danser autour.
Ouais. Et la vôtre, alors, de vie intérieure, elle vous prend quelle place dans votre vie, Patrice Van Hersel ?
Bonne question, Noël. Elle est comme tout un tas de vie intérieure, je pense, chahutée, elle est contrastée, elle connaît des moments de tranquillité. Elle a soif, ça c'est ce que dit Christophe André, je me réfère à lui, mais je l'ai ressenti très fortement. Elle a soif de paix et...
Pareil, voilà. Tout pareil.
Tout pareil que lui. Tout pareil que lui, mais avoir les deux à la fois, c'est pas très facile.
On va essayer, mon général. Merci d'être venu, Patrice Van Hersel, à la recherche de la vie intérieure, édité chez Albin Michel. À lire absolument, parce que j'ai oublié de parler de choses ou pas eu le temps de parler de tellement belles choses qu'il y a dans ce livre que ce serait bête de passer à côté. « Vous pouvez bien entendu télécharger cette émission et venir faire un tour sur notre site. Merci à Simone de Poux pour sa réalisation, à Emmanuel Fournier pour sa préparation, à Muriel Pérez pour sa programmation musicale et à Kevin Pelot pour sa prise de son. Après les informations, vous avez rendez-vous avec Brigitte Patient qui, dans Regardez voir, évoquera la France en images.